Hey, salut à vous, jardinières et jardiniers, potagères et potagers, bienvenue à l'émission Comme un jardin, présentée par moi-même, Stéphane, votre serviteur, qui va vous permettre de vous donner quelques indices, quelques méthodes pour aujourd'hui se lancer dans le jardinage, pour se lancer dans le potager. Je vous souhaite une très bonne année et je vous souhaite eh bien, de semer et de planter et de cultiver la terre. C'est une activité merveilleuse duquel vous tirerez de nombreux fruits et légumes, j'en suis sûr. Alors, pour commencer, que faut-il faire pour se lancer dans le jardinage? Eh bien, la première chose à faire, c'est de trouver des références, de trouver des informations. Alors, évidemment, il y a pléthore de bouquins en tout genre, guide du jardinage. Moi, j'utilise celui de monsieur Jean-Paul Thorez, le guide du jardinage bio. Je l'utilise très régulièrement, quasiment tous les jours et à chaque fois que je vais au jardin. Mais vous avez aussi, eh bien, pour les plus modernes, eh bien, de nombreuses chaînes YouTube. Donc YouTube, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui est vraiment douée en la matière et surtout pour parler de potager. C'est un certain Rémi du Jardin des Merveilles. Je vous le recommande. Allez voir sa chaîne YouTube. Il est vraiment clair et efficace. Ça vous aidera énormément. Ensuite, vous pouvez aussi trouver des associations de jardinage, comme la mienne par exemple, qui s'appelle le Chaudron du Redon à Saint-Martin-le-Redon, et donc les contacter et puis participer à des échanges de graines, de plants. Vous pouvez aussi avoir des amis qui ont déjà un potager et allez-y, posez-leur des questions, demandez-leur s'ils ont des graines, etc. Voilà, il faut trouver les ressources à proximité, même son voisin. Si vous voyez votre voisin qui a un très joli jardin, allez le voir et dites-lui, allez, comment vous faites pour planter ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Voilà. Et puis voilà, dernier recours, il y a moi, par exemple, qui vous parle de jardin tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à partir de 14h. Donc voilà, je vais vous donner quelques indices. Alors, première chose à faire pour situer votre jardin. Alors, ça peut être un tout petit jardin, hein, une simple plate-bande suffit, voire même une jardinière, hein, c'est un bon début. Alors, si vous avez un peu plus de terrain, c'est où est-ce que je vais mettre mon potager? Alors, la première chose à faire, c'est de penser à le mettre le plus proche de sa maison, la plus proche de son habitation, de façon à le rendre le plus accessible possible. Avoir le tas de compost juste à la sortie de la cuisine, eh ben, ça va très bien. Être proche de son potager aussi, pour le protéger un peu contre les prédateurs. Il peut y avoir des chevreuils, il peut y avoir des lapins, il peut y avoir même des sangliers. Moi, j'ai souvent des sangliers dans le potager en ce moment, donc il faut s'en défendre. Et pour cela, être à côté de son potager, c'est très important. Et puis, pour le surveiller très régulièrement, un jardin, eh bien, il faut y passer au moins une fois par jour, hein. C'est peut éventuellement l'abandonner un ou deux jours, mais pas beaucoup plus, surtout au début. Quand on fait des semis, quand on fait des plantations, ça demande de la surveillance. Alors, évidemment, il faut le savoir, quand on se lance à faire un jardin ou un potager, évidemment, c'est de l'entretien. Il faut être capable d'y rester assez régulièrement. Alors, on peut automatiser certaines choses, comme l'arrosage, par exemple, mais voilà, la présence, la constance, hein, comme on dit à la campagne, il faut soigner son jardin, il faut soigner ses légumes, comme on va soigner ses bêtes. C'est un peu tous les jours et ça demande bien de l'attention. Alors, même si on jardine, jardine pas, même si on n'est pas dans l'action, on est premièrement dans l'observation. Alors, situer son jardin, donc à proximité de sa maison. Alors, dans quelle zone? Une zone plutôt plate, évidemment, hein, il ne faut pas se compliquer la tâche. Alors, si vous avez que des zones pentues, c'est possible. Dans le Lot, d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de terrasses et de zones qui ont été terrassées avec des petits murs qui ont permis à beaucoup de paysans à travers les âges de cultiver même les zones les plus pentues. Mais voilà, essayez de trouver une zone plutôt plate, hein, ça sera beaucoup plus favorable. Après, une zone bien exposée et bien exposée au soleil. Le soleil essentiel. Le soleil, c'est ce qui fait pousser les plantes, hein, photosynthèse. Donc, avoir une zone ouverte avec peu d'arbres. S'il y a quelques arbres, quelques branches, ben, c'est l'occasion de sortir la scie et d'éclaircir un peu, d'élaguer quelques arbres pour faire rentrer la lumière. Et puis orienter évidemment au sud pour avoir un maximum de lumière. Même les rangs, vous pourrez et vous devrez orienter les rangs de votre jardin. Hein, si vous faites quelques lignes de carottes, il vaut mieux les orienter nord-sud. C'est plus efficace. Le matin, vous avez le soleil qui éclaire le rang à l'est. Et le soir, à l'ouest, le rang sera parfaitement éclairé et les plantes pousseront un peu plus harmonieusement. Si vous orientez les rangs est-ouest, alors là, la lumière sera pas portée d'une façon homogène. Et il y aura donc toujours le rang de derrière qui sera bien à l'ombre du rang de devant. Donc, les rangs plutôt nord-sud. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, vous allez devoir jongler et aussi penser un peu à la hauteur des plantes. Tiens, une autre astuce, si vous avez des arbres, si vous voulez en planter, d'ailleurs là c'est le moment, cet hiver, si vous voulez planter les arbres, plantez-les plutôt au nord, pas au sud, puisque si vous les plantez au sud, eh bien, ils vont faire de l'ombre sur votre potager. Voilà. Ensuite, avoir un point d'eau à proximité. Si vous voulez faire pousser des légumes, c'est essentiel de l'eau. Alors, certains légumes, comme les oignons, l'ail, même les pommes de terre, peuvent se cultiver en sec sans eau et uniquement avec l'eau de pluie, évidemment, sans eau apportée. Mais l'eau du ciel, c'est essentiel. L'eau, où la trouver? Quelle eau utiliser? Alors, je vous déconseille d'utiliser l'eau du robinet. Elle est chère, elle est parfois traitée. Bon, si vous avez que ça, malheureusement, vous devrez utiliser ça pour arroser. Et si vous voulez faire des semis, faire du plant, il vous faudra là aussi l'arroser et avoir le point d'eau à proximité de votre pépinière. Alors, eau du robinet, bon, déconseillé, mais si vous avez que ça, ok. Ensuite, l'eau d'un puits, c'est possible, avec une petite pompe. Donc là, il vous faudra peut-être de l'électricité, bien qu'il est possible d'utiliser aussi une motopompe, c'est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus polluant. Et sinon, eh bien, à l'ancienne, avec un seau, hein, vous plongez le seau au fond du puits, vous le remontez. Bon, allez, imaginons que vous soyez moderne, vous avez peut-être de l'électricité, s'il en reste. Ensuite, autre solution, une rivière, un cours d'eau, un ruisseau, là aussi, avec une pompe ou un seau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, après... l'eau du toit, l'eau de pluie. Vous pouvez récupérer ici dans le Lot, on en fait un paquet, des réservoirs. Mettre des réservoirs, c'est extrêmement utile. Alors, cette eau de pluie, évidemment, pour arroser, mais aussi pour faire certaines préparations. Si vous faites des purins d'ortie, si vous faites des préparations à base de plantes, eh bien, il est très utile d'utiliser de l'eau de pluie. D'ailleurs, pour les réactions chimiques, elle est bien plus intéressante parce qu'elle est légèrement acide. Il y a beaucoup moins de calcaire et de minéraux dans l'eau de pluie et ça améliore les réactions chimiques et aussi les fermentations. Donc, si vous voulez, et on en parlera cette année, si vous voulez faire des préparations, des extraits de plantes, des extraits fermentés de plantes, il sera bon d'avoir quelques réservoirs d'eau de pluie. Voilà. Et toujours à proximité. Alors ensuite, un autre élément essentiel au fonctionnement du jardin, c'est ce qu'on appelle la matière organique. Alors, la fertilité des sols se joue avant tout grâce à la matière organique. La matière organique, on peut la trouver sous plusieurs formes. On peut la trouver sous forme de fumier, sous forme évidemment de compost, de paille, sous forme de foin, sous forme de feuilles et sous forme par exemple de BRF. Dans le Lot, on en a pas mal parlé de BRF ces dernières années, donc c'est ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté. C'est du bois de branches, donc ce sont des branches broyées au broyeur. Ça, c'est une solution que beaucoup de jardiniers utilisent. Alors, ça demande de l'énergie. Bon, c'est pas non plus l'idéal. Ça va pas apporter une matière organique directement assimilable par le sol. Ça va servir avant tout au début de paillage. La fertilité du sol sera améliorée qu'avec le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver du fumier. Il y a encore pas mal d'élevages dans le Lot, des élevages de chèvres, de brebis, de moutons, de vaches et aussi de cheval. Si vous connaissez un centre équestre, allez-y, demandez-leur et prenez quelques brouettes. Alors, quelle quantité avez-vous besoin? En moyenne, entre 2 et 4 kilos de matière organique par mètre carré et par an, c'est ce que vous aurez besoin. C'est un minimum, entre 2 et 4 kilos de compost. Quand je parle de fumier, c'est de fumier composté. En général, la matière organique, il faut qu'elle soit assez décomposée pour l'amener au sol. Il y a, dans certains cas, la possibilité d'apporter des matières plus ou moins brutes, comme par exemple apporter des feuilles, apporter du paillage. C'est de la matière organique, mais elle ne va pas être rapidement assimilable. Il va falloir attendre plusieurs mois pour que les plantes en bénéficient directement. Alors qu'avec du compost et l'assimilation, alors d'abord la minéralisation de ce compost et l'assimilation par les plantes sera beaucoup plus rapide. Alors voilà, entre 2 et 4 kilos de compost par mètre carré et par an, c'est une bonne dose. Certains qui pratiquent ce qu'on appelle du maraîchage en sol vivant peuvent en apporter beaucoup plus. Mais alors là, ça demande un effort, hein. Vous verrez, hein, c'est déjà pour une dizaine de mètres carrés, eh bien, il vous faudra au minimum 20 kilos de compost. Il faut les apporter. Au moins une fois par an. Je vous l'expliquerai un peu plus tard dans la saison, mais il y a un moment pour les apporter, comment l'apporter. Bref, vous voulez commencer à faire un potager, eh bien, trouvez de la matière organique, très important. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ces éléments, vous pouvez commencer vraiment à faire le calcul de votre travail, à planifier votre travail. C'est ce qu'on appelle dans le jardinage moderne, le jardinage permaculturel, c'est ce qu'on appelle le design. Designer, c'est dessiner, mais surtout, c'est réfléchir. Alors, réfléchir au positionnement des différents éléments du jardin. Où seront les arbres, où seront vos légumes, et surtout, et pour moi c'est vraiment essentiel, c'est où seront vos allées, où seront vos passages, parce que le jardin est fait, eh bien, pour circuler dedans. Donc, un élément essentiel du jardin, ce qui va structurer le jardin, ce sont vos chemins et vos allées. Pensez-y, alors. Faites un dessin, donc une carte vue du dessus de votre jardin, et commencez à imaginer, eh bien, où est-ce que vous allez planter les tomates, planter des arbres, où seront vos fraisiers. Donc imaginez-le sur le papier, et puis aussi sur le terrain, hein, ça va de pair, hein. Ça vous permettra de calculer vos surfaces, de faire des zones bien spécifiques. Alors, pour les arbres, peut-être une zone de verger et peut-être aussi mélanger les arbres avec le potager. C'est vraiment une option utile. Ah oui, et aussi structurer le jardin dans ses dimensions. Alors, faire les chemins d'une certaine largeur, c'est important. Il faut savoir qu'une brouette a besoin d'à peu près 80 cm pour passer. Donc, il va y avoir des allées principales et des allées secondaires. Il faut penser aussi à la longueur de vos planches et la longueur, alors ce qu'on appelle des planches et planches de culture ou plate-bande, et avoir un peu un standard pour qu'elles soient à peu près toutes de la même longueur. Pour faire par exemple les rotations, mais aussi si vous avez des lignes de goutte à goutte, qu'elles soient toujours de la même longueur pour les utiliser et les déplacer d'une année sur l'autre et qu'elles soient adaptables. Voilà. Donc pour le potager, surtout le potager productif, il faut avoir un degré de standardisation. Un autre exemple, si vous utilisez des toiles tissées ou des bâches en plastique, bon. C'est une option, eh bien, c'est bien qu'elles soient d'une longueur un peu standard. Comme ça, vous pouvez les déplacer d'une année sur l'autre et les réutiliser à souhait. Alors, eh bien, là, on a fait la première étape. L'émission est à peu près à la moitié de son parcours. Il est temps de faire une petite pause musicale. Depuis quelques années, je suis un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peruinca. Peruinca, c'est un groupe péruvien qui fait de la musique traditionnelle péruvienne. J'aime beaucoup ce qu'ils font et on les voit pas mal dans le sud de la France. Maintenant, bon, ils étaient en voyage pendant des années et là, ils se sont fixés un peu entre Bordeaux et Toulouse. et ils nous font souvent partager leur musique. Et là, j'aimerais vous faire partager un morceau qui s'appelle Paloma. Vous allez voir, c'est de la musique traditionnelle avec des instruments, bien beaucoup de guitare et de mandoline. C'est un peu de la musique romantique. Alors, ben, je vous laisse à l'écoute de Peru Inca, Paloma.
Cielo, hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas, vuela hasta que encuentre remedio para herida y olvidé tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si juntan los dos sus alas, volarán muy lejos. Ay, 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 ay.
Hey, hey, retour sur l'émission Comme un jardin. Donc voilà, après une petite écoute de ces musiciens péruviens, Los Peruinca, retour au jardin. Alors, je vous parlais du plan du jardin, donc ce que disent les permaculteurs, le design. Eh bien, après avoir planifié, ce qui est important, une fois qu'on a planifié dans l'espace, il faut planifier dans le temps. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle un calendrier de culture et un calendrier des semis. Alors, c'est assez simple. Vous trouverez là aussi, hein, dans quelques références bibliographiques et aussi sur Internet, des calendriers de semis. Tout au long de l'année, chaque plante a sa période de culture, sa période de semis, sa période de plantation et sa période de récolte. Il faut les connaître pour organiser son travail dans le temps. Tiens, là, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut planter? Qu'est-ce qu'on peut semer? Bon, je vous dirais, ben, on pourrait planter de l'ail, ou planter des topinambours, c'est à faire, ou planter des arbres. Donc voilà, ensuite, il y a une étape suivante qui va être, eh bien, l'entretenir, sur quelle période, etc. Tout ça, c'est noté dans des bouquins. Bon, il suffit de le lire, s'informer, et ça va rythmer un peu votre travail. Bon, une fois que vous avez lancé vos premiers semis, vu les quantités aussi, là aussi, c'est pas le tout de jeter des graines, il faut en jeter juste ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est de mesurer et de compter. Alors, quand on fait un potager, on a évidemment des surfaces déterminées, des surfaces limitées, et puis quantité de travail, hein, d'effort à fournir, donc il faut savoir vraiment le mesurer. Donc, si vous avez fait votre plan de culture et que vous avez besoin de, on va dire, allez, 20 pieds de tomates, ne semez pas 50 graines et ça va vite. Semez-en juste ce que vous avez besoin. Alors, juste ce que vous avez besoin et un petit peu plus, on ne sait jamais, il peut y avoir des ratés. Alors, une fois que vous avez fait vos semis, ben, il faut bien les disposer et il faut les mettre dans de bonnes conditions. Là aussi, dans le jardin, une chose à avoir, c'est une petite serre, toujours utile. Alors, on peut faire les semis derrière la fenêtre de sa cuisine, c'est une option, mais c'est pas l'idéal et souvent, ça manque un peu de lumière. Ce qui est bien, c'est d'avoir une petite serre ou ce que l'on appelle un châssis. Alors là aussi, un châssis, c'est très facile à faire. Alors, la manière la plus simple, c'est juste d'acheter un plastique transparent. Un simple plastique transparent, disposé avec quelques litos, quelques tasseaux, quelques petits arceaux, ou ça peut être du bambou, et vous ferez très rapidement un petit abri. Alors là aussi, sur les bouquins, vous trouverez toujours de quoi vous inspirer. Mais voilà, une bâche plastique et ça marche. Ça peut être aussi de la récup. Une simple fenêtre bien positionnée va vous servir de châssis. Chose importante à savoir, quand on fait un châssis et quand on fait une serre en général, eh bien, on va avoir besoin de retenir la chaleur. Et pour retenir la chaleur, il faut qu'elle soit assez bien étanche. Alors, totalement étanche, ça c'est impossible, mais le plus étanche possible pour retenir la chaleur. Et il faut aussi, pareil, c'est quasiment l'opposé, mais aussi qu'elle soit bien ventilée. Alors, en général, quand il fait froid, on la ferme sous cloche, et quand il fait chaud, quand le soleil revient, on la réouvre. Ça, c'est quelque chose d'important à gérer. Avoir un petit thermomètre, hein, toujours à l'intérieur de sa serre, hein, et pas positionné en plein soleil. Je vous conseille par exemple de mettre votre thermomètre sous un pot. Ça vous donnera un peu la température de votre châssis ou de votre serre. Et l'observer régulièrement. Passer un peu tous les jours et regarder. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une première base pour se lancer dans un potager. Ensuite, quand vous allez cultiver un peu plus et vous étendre un peu plus sur votre terrain, vous aurez besoin de beaucoup plus d'outils. Alors, parmi les outils utiles, un que j'affectionne beaucoup et que beaucoup de jardiniers utilisent, c'est la grelinette. La grelinette, ça vous sert à décompacter le sol. Chose très importante, ça va activer la fertilité du sol, apporter de l'oxygène dans le sol. Donc, la grelinette, c'est un outil assez lourd. On peut le faire aussi avec une fourche bêche. Donc, sans retourner le sol, juste le briser, le fracturer et lui permettre de respirer, eh bien là, déjà, ça va activer le sol, ça va être un des outils fondateurs du jardin. Donc, la grelinette ou la fourche bêche. Un autre outil très efficace, c'est la houe. Avoir une houe. Alors la houe, qu'est-ce qu'une houe ? Dans le Lot, on dit parfois la sarcle. Alors la sarcle, c'est un peu comme une pioche. On va dire que ça ressemble à une hache, mais avec la lame perpendiculaire à l'axe de l'outil, pas perpendiculaire aux manches. Ça permet de racler le sol et de couper les herbes en surface, mais aussi de travailler le sol d'une façon superficielle. Voilà, une houe. Bon, il y a d'autres outils. Là aussi, je ne vais pas vous en faire la liste. Mais oui, une binette, les serfouettes, les râteaux, des pelles, des seaux, des brouettes. Bref, vous imaginez un peu tous les outils que l'on peut trouver dans le potager. Ensuite, un autre matériel qui est, je dirais, oui, très important, c'est le matériel d'irrigation. Alors, évidemment, les seaux, les arrosoirs, c'est une chose, mais on peut utiliser des gouttes à gouttes, des asperceurs. Les gouttes à gouttes peuvent fonctionner à très basse pression. Vous trouverez dans le commerce et sur Internet des gouttes à gouttes qui fonctionnent avec des pressions très basses, en dessous de 1 bar. La plupart des gouttes à gouttes fonctionnent avec 1 bar. Donc, ça suppose d'avoir un réseau d'irrigation, d'avoir une pompe ou d'être branché sur l'eau potable. Là, on aura au moins une pression de 2 ou 3 bar. Voilà, donc les gouttes à gouttes, alors il y en a de plusieurs sortes, il y a des gouttes à gouttes jetables, il y a des gouttes à gouttes qui peuvent durer plusieurs années. Souvent ici, avec l'eau du Lot, ils vont se boucher et vous aurez besoin d'utiliser un peu de vinaigre tous les ans, par exemple, pour les déboucher. Donc un outil très utile au potager, les gouttes à gouttes. Un autre outil, beaucoup plus efficace, mais qui consomme beaucoup plus d'eau, c'est évidemment les asperceurs. Moi, j'utilise des asperceurs oscillants. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais vous trouverez dans les jardineries ces petits systèmes-là, avec comme une petite rampe et un mécanisme qui va faire osciller l'aspersion de droite à gauche, et ce pendant des heures. Donc ça vous permet d'arroser à peu près 100 mètres carrés d'un coup, ce genre de système, et vous pouvez le régler pour réduire l'arrosage à quelques mètres carrés. Vous avez aussi des asperceurs circulaires du genre sprinkler. Là aussi c'est assez classique, c'est des asperceurs à battant, donc ça fait tchic 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 tchic. Vous connaissez, c'est vraiment simple et efficace. Par contre, ça arrose d'une façon circulaire. Alors, à moins d'avoir un potager tout rond, il va vous en falloir plusieurs les uns à côté des autres pour arroser des bandes. Donc, ça manque un peu de précision. Un autre moyen, qui est le moyen le plus simple, hein, c'est à l'arrosoir. Évidemment, il suffit de passer à l'arrosoir le long des rangs et d'être assez régulier. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à l'arrosage, dans le Lot, on a à peu près entre 700 et 1000 mm d'eau. Alors 1000 mm, ça correspond donc à 1000 litres d'eau qui tombent du ciel tous les ans. Pour une très bonne année. Hein. L'année dernière, je crois qu'on tournait plutôt autour de 700 mm d'eau par an. À cela, il va falloir rajouter environ 300 mm, donc 300 litres d'eau par mètre carré et par an pour faire pousser des légumes. Environ, c'est une moyenne. Alors certains légumes, comme par exemple les pommes de terre, les oignons, l'ail, vont pas vraiment avoir besoin de beaucoup d'eau puisque ce sont des cultures que l'on a en hiver et au printemps, donc les périodes les plus humides. Par contre, dès que vous allez vouloir eh bien, faire pousser des courgettes, des tomates, eh bien, vous aurez besoin d'un peu plus d'eau. Et donc, ajoutez en moyenne aux alentours de 300 litres d'eau par mètre carré et par an. Et donc voilà, ça c'est à calculer. J'en parlais tout à l'heure, donc les réservoirs, ok, avoir des cuves, avoir un puits, avoir un ruisseau à proximité, c'est essentiel. Et d'évaluer votre consommation, eh bien ça sera en fonction de la surface utilisée. Donc voilà, ça peut aller assez vite. Donc soyez mesurés. Là aussi, si vous utilisez des arrosoirs, sans problème, vous allez de suite voir la quantité d'eau que vous allez utiliser. Donc si vous voulez faire un petit arrosage, ça va être, on va dire, 5 mm d'eau par exemple. Donc 5 litres par mètre carré, ça sera un demi-arrosoir pour un mètre carré. C'est vraiment un minimum. Un bon arrosage commence à partir de 10 litres d'eau par mètre carré. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus tard cette année, évidemment, mais c'est vraiment parmi les ressources les plus importantes. Alors, pour faire un peu le résumé de ce dont on vient de parler par rapport aux besoins du jardin, l'élément premier, c'est la lumière, hein, pour faire pousser des plantes. Le sol, il n'est pas secondaire, mais disons que le sol peut évoluer et vous pouvez le transformer. Si vous êtes sur le cos, que c'est de la rocaille, vous pouvez toujours apporter des grosses quantités de matière organique, aller chercher du fumier, aller chercher du compost et même du compost de déchetterie. Ça peut être une ressource utile. Ne soyez pas trop craintifs. Je pense que le compost de déchetterie, et j'ai rencontré des personnes qui utilisent le compost du CIDED dans le Lot. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour cette déchetterie. Donc, le CIDED, c'est entre Catus et Crayssac. Je crois que c'est sur la commune de Catus. Produit des tonnes de compost qui sont données. Donc il suffit d'y aller et vous pouvez récupérer des quantités importantes de compost. Et bien avec ce compost, vous pouvez transformer votre sol. Si vous avez un sol argileux et caillouteux, vous pouvez rajouter de la matière organique en quantité et créer votre sol. Donc ça, vous pouvez toujours le faire évoluer. La ressource en eau, évidemment, il faut créer des citernes, il faut créer des réservoirs, il faut aussi créer des points d'eau, c'est toujours utile et ça fait du bien à tout le jardin, hein, si vous voulez faire une petite mare. Mais voilà, il faut dimensionner tout ça en fonction de la surface de jardin et la surface de potager que vous allez cultiver. Voilà. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les bases pour démarrer un potager, donc vous lancer un peu sur tous ces concepts, toutes ces idées, toutes ces notions à avoir, l'eau, la terre, le soleil, hein, vous pouvez vous prendre pour Dieu sur terre en jouant avec les éléments. Ce sont les conditions de la vie, les conditions du potager, les conditions du jardinage. Et les connaître, les mesurer, les respecter, c'est essentiel. À notre époque, on n'a jamais autant pris conscience de ces éléments-là et à quel point l'eau, la terre, le ciel sont les éléments essentiels à notre vie. Voilà, bon, eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. J'espère que d'ici là, vous serez mis un peu plus au jardin. J'espère que vous aurez pris un bout de papier, un crayon, que vous aurez planifié, que vous aurez trouvé le bon bouquin qui vous va bien, que vous vous serez inspiré de bonnes émissions. Et je vous souhaite un bon jardinage, malgré le vent et les frimas de l'hiver. Bisous à tous.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet.
On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon.
Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. Ils ont monsieur le maire et le sous-préfet.
Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond leurs autocars.
Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard.
Dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés, y avait un bal qui donnait des primes vertes dans un coin verdu. De petites grenouilles chantaient
une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit quelle distinction.
Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous plaisez, beau, j'aime les hommes dont les yeux brillent.
Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans
qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans...
Dans mon jardin extraordinaire, un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, vous jouerez du luth pendant que vous serez réunis.
Cet agent était un grand poète, mais nous préférions, Artémise et moi, la sœur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois.
Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.